Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice qui va s'intéresser ce soir à la prostitution des mineurs en compagnie de Bénédicte Lavaux-Legendre et d'Hélène David. La prostitution des mineurs est un phénomène en progression dans notre pays. On constate en effet une diminution progressive de la prostitution de rue au profit d'une prostitution dite hébergée qui a été remarquablement mise en scène par Jean-Bernard Marlin dans Scheherazade. Cette nouvelle forme est plus déroutante parce que plus diffuse et plus insaisissable. Et elle est particulièrement difficile à combattre du fait de la sidération des adultes, du manque de formation des professionnels et des parents et des dénégations des victimes elles-mêmes qui renâclent souvent à se considérer comme telles. Celles-ci se refugient derrière un discours managérial. Elle revendique d'être entrepreneur de soi. Elle parle de contrat, de liberté de choix, d'exploitation de son capital séduction en vue d'obtenir des biens de consommation. S'affirme également une prostitution 2.0 qui peut commencer à bas bruit dans le silence d'une chambre adolescente à l'insu des parents qui sont pourtant à côté. D'où la nécessité de consacrer une émission à ce problème qui, de l'avis de tous les professionnels, doit être mieux connu et compris de tous. C'est ce que vous propose Esprit de justice ce soir. Une réflexion en compagnie d'Hélène David. Hélène David est responsable de la permanence ado-sexo à l'association Agir contre la prostitution des enfants, la CPE, et Bénédicte Lavaux-Legendre, qui est juriste à l'Université de Bordeaux, chercheuse au CNRS, qui est beaucoup publié sur ces questions et qui est sur le point de publier les actes d'un colloque intitulé « Prostitution des mineurs, trouver la juste distance ». Et je renvoie aussi les auditeurs à son blog, ses carnets de recherche qu'ils trouveront sur internet, traite.hypothèse.org. Bonjour mesdames, et alors est-ce que vous pourriez d'abord dresser un tableau de ce qu'est la prostitution aujourd'hui des mineureux? J'ai mis au féminin, mais il y a également une prostitution des jeunes garçons, on en dira peut-être un mot. Bénédicte Lavaux-Legendre.
Merci Antoine Garapon. Alors la prostitution des mineurs aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose de très large, ça renvoie à ce qu'on connaît depuis longtemps, vous l'avez évoqué rapidement, la prostitution de rue. Les mineurs, il y en a depuis longtemps, des jeunes nigérianes, des jeunes bulgares, des jeunes migrantes. Mais ce qu'il me semble important d'aborder aujourd'hui plus spécifiquement, c'est bien cette prostitution qu'on peut dire 2.0 et qui renvoie à des jeunes filles adolescentes qui vont se prostituer via un recrutement par Internet avec l'aide de jeunes hommes, bien souvent, de jeunes filles, mais bien souvent de jeunes hommes, un peu plus vieux qu'elles, et qui vont...
Un peu plus vieux d'elles, ça veut dire qu'ils peuvent avoir 15 ans alors qu'elles en ont 14.
Je dirais un peu plus d'écart quand même, peut-être. Elles ont 14, 15 ans, ils ont 18, 20 ans, d'accord, 22 ans, un petit peu plus d'écart. Mais ils vont les entraîner dans des hôtels et les inciter pour beaucoup à se prostituer dans le cadre d'un plan qui va durer 3, 4, 5 jours. Pendant ce plan, elles vont être enfermées dans l'hôtel et elles ne vont faire que se prostituer. Elles ont l'impression d'être traitées comme des princesses, on leur apporte à manger, on leur apporte des stupéfiants, on leur apporte de l'alcool, mais en réalité, elles sont purement et simplement séquestrées, et le jour où elles s'en aperçoivent, évidemment, c'est extrêmement difficile.
Alors, c'est ça, on va voir qu'il y a tout un engrenage qui les conduit à subir des violences ensuite, mais ce qui est tout à fait paradoxal, intéressant, saisissant, c'est qu'elles ont le sentiment d'être libres. Elles sont séquestrées, et pourtant, dans leur discours, au moins, elles sont libres.
Oui. Elles ont le sentiment d'être libres parce qu'elles sont prises dans une certaine logique contemporaine qui veut qu'on fait ce qu'on veut avec son corps, qu'il n'y a pas de limite, qu'on est propriétaire de son corps, qu'il y a de l'argent facile, qu'on existe par ce qu'on montre plutôt que par ce qu'on est. Et donc, elles sont dans cette logique-là d'avoir beaucoup d'argent qui passe entre leurs mains et de se dire, c'est comme ça que j'exerce ma liberté, je fais ce que je veux. Mais malheureusement, le raisonnement s'arrête à ce stade-là, je fais ce que je veux. pendant un temps et puis très vite on s'aperçoit que les contraintes sont très lourdes. C'est
ça. Et que les contrats ne sont pas respectés notamment.
Et que les contrats ne sont pas respectés.
Hélène David, avant d'arriver à cette prostitution hébergée, il y a une autre forme d'initiation à la prostitution 2.0.
Oui, alors merci tout d'abord de votre invitation, Antoine Garapon. Donc je rebondis néanmoins sur ce que dit Bénédicte, sur elles se disent libres. Il y a quand même un moment où, même si elles le disent, en tous les cas dans les couloirs des tribunaux ou au commissariat où elles sont auditionnées, elles peuvent tout à fait reconnaître pour elles-mêmes qu'elles ne sont plus du tout libres et qu'elles ont même peur éventuellement d'un réseau. Et qu'elles ne savent même plus comment faire pour s'en sortir.
C'est ça. Peur d'un réseau, c'est peur d'un réseau et peur du réseau, peur d'Internet qui devient une arme de pression.
Tout à fait. Les deux, puisque on voit aussi, donc, sur certains réseaux, certains qui peuvent même lancer une annonce pour dire ma copine est dans telle ville, si vous la voyez, autorisez-vous à la persécuter et à venir lui faire mal, quoi. Enfin, c'est dit moins élégamment que ce que je suis en train de dire, oui. Mais c'est une invitation, effectivement, aux représailles.
C'est-à-dire une appropriation du corps de ces jeunes filles, totale.
Oui, parce qu'elles n'ont pas le droit, de toute façon, pour certaines, celles qui sont dans des réseaux les plus constitués, effectivement, elles n'ont pas le droit d'en sortir. J'avais ce matin au téléphone une maman qui me parle de sa fille, qu'elle a réussi à nouveau, grâce au travail qu'on fait ensemble, à l'accrocher un petit peu. Et donc, la fille revient prendre de temps en temps un café avec sa mère, mais elle est obligée de demander l'autorisation pour aller au cinéma. Donc, vous voyez le paradoxe. Hein, elles ont quitté la maison pour obtenir une forme de liberté en disant, dans le conflit avec les parents de l'adolescence un peu classique, je pars parce que j'ai pas la liberté, et elles se retrouvent parfois, pas dans tous les réseaux, mais dans certains réseaux, encore plus évidemment, tenues et à ne pas pouvoir bouger comme elles le souhaitent.
Je peux revenir peut-être un instant
à vous le joindre.
Sur le propos d'Hélène David, là, à propos du terme réseau, qui est un terme qui pose difficulté, me semble-t-il. Alors on comprend tous ce que veut dire ici le terme réseau, mais je préférerais peut-être parler des proxénètes, parce qu'on est face à une activité qui est extrêmement volatile, qui est extrêmement changeante, qui est extrêmement mobile, à l'image évidemment de l'époque, à l'image d'Internet. Et donc on n'est pas forcément face à un réseau très structuré, très stable, comme on pourrait imaginer dans le cadre de la mafia, où on va avoir quelque chose d'assez stable et permanent. On est dans quelque chose qui est en recomposition permanente. Et donc on a bien des individus, effectivement, qui sont des proxénètes, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qui vont en permanence créer des alliances différentes les uns avec les autres, recruter des filles, recruter d'autres filles. Une fille peut passer d'un proxénète à un autre. Donc je voulais juste attirer votre attention sur cette dimension volatile.
C'est ça. Alors volatile et puis ambivalente. Dans Scheherazade, on voit bien, alors je crois que c'est la physionomie du lover boy, c'est-à-dire il aime cette fille et il la prostitue.
Oui. Alors le cas de Scheherazade est un peu particulier, j'en sais rien, mais il y a une version un peu romanesque,
oui,
malgré
oui,
tout.
Ah ben oui,
on sent bien qu'il a l'air sincère dans Scheherazade. Je ne peux pas dire quels sont les proxénètes qui sont sincères ou pas, c'est difficile, mais on identifie bien, en tout cas, même juridiquement, qu'il y a quand même une stratégie criminelle tout à fait délibérée du loverboy qui fait que, de façon délibérée dans bien des cas, le proxénète va entreprendre de séduire la fille pour obtenir d'elle qu'elle se prostitue. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans Scheherazade.
Oui,
donc il y a différents profils, mais dans certains cas, le loverboy, délibérément, il joue un jeu pour obtenir que la jeune se prostitue.
Et David.
Et puis nous avons aussi, bien sûr, les jeunes filles qui ont été victimes, qui sont toujours victimes, à mes yeux, et qui commencent à recruter elles-mêmes. Et ça, nous en avons malheureusement de plus en plus.
C'est-à-dire
que elles se prostituent, elles sont éventuellement souvent avec dans un plan et qui l'oblige aussi à recruter de nouvelles jeunes. Et c'est le cas malheureusement dans beaucoup de foyers où justement on met normalement en protection
c'est
les jeunes. Malheureusement avec Internet, il n'y a plus de lieu où on puisse protéger un jeune. il n'y a pas de lieu où des portes soient perméables. Les portes sont perméables, évidemment, aux réseaux sociaux. Et il n'y a plus besoin de chaînes ou de pistolets pour tenir une victime à portée de main, enfermée, séquestrée. Mais avec, effectivement, Internet, tout est possible. La géolocalisation, tout est possible.
C'est ça. Alors, vous montrez à quel point cette ambivalence est quasi paroxystique, c'est-à-dire que les jeunes abus victimes deviennent elles-mêmes assistantes, collaboratrices, pour prendre le terme de la du proxénète. Ce que vous aviez remarqué, d'ailleurs, Bénédicte Lavaux-Lejeune, dans votre étude sur les Nigérianes, qui sortent d'un réseau de prostitution et qui deviennent madame, comme on les appelle. Oui. Dans le milieu.
Oui, merci Antoine Garapon de faire ce rapprochement. En fait, il y a des points communs et il y a évidemment des différences. Dans le cadre du Nigeria, on a une carrière criminelle, c'est-à-dire que une jeune femme nigériane qui arrive en Europe va commencer prostituée, puis elle va devenir prestataire logement, elle va fournir un logement, elle va devenir tutrice, elle va initier à la prostitution, puis elle va devenir madame, c'est-à-dire proxénète. Ici, dans la prostitution des mineurs, dans ce qu'on en comprend à ce jour, parce que ça bouge très vite, il faut rester très prudent dans ce qu'on avance, mais nous, dans notre étude que nous avons réalisée avec Cécile Plessard et Gaëlle Encrena sur cette forme de prostitution, on n'identifie pas à proprement parler de carrière criminelle, puisque les jeunes prostituées arrivent rarement à devenir des proxénètes. Elles s'arrêtent avant, elles deviennent des recruteuses. Et c'est un rôle très spécifique, le rôle de recruteuse, parce qu'il y a bien besoin souvent d'une certaine complicité féminine, d'une certaine mise en confiance, et là encore, entre celles qui recrutent et celles qui recrutent.
Mais c'est quand même la labilité des rôles, quoi. C'est-à-dire qu'on est une société liquide, comme dit Sigmund Bauman, il n'y a plus cette structuration qui reposait in fine sur l'espace, du moins je pense. C'est ça qui est très intéressant dans le cas de la prostitution. Et donc, on passe du jour au lendemain d'un rôle à son contraire. Et c'est vrai aussi bien des jeunes femmes que des institutions. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, Hélène David, c'est qu'un foyer de la PJJ, de la protection judiciaire de l'enfance, ou un foyer de l'ASE, de l'action sociale en faveur de l'enfance, peut devenir un foyer de prostitution, qui est une véritable plaie d'ailleurs pour ces foyers.
Un lieu, effectivement, certains vont profiter de la fragilité de ce public pour effectivement venir recruter. Donc, au pas de la porte, c'est la valse parfois de Uber et autres pour venir les recruter et les chercher, mais aussi à l'intérieur même, effectivement, par d'autres jeunes filles qui, comme Bénédicte Lavaux-Lejeune l'a dit, offre une relative confiance, ouvre la confiance des autres.
C'est ça. Alors, on pourrait continuer d'ailleurs dans cette déploration de notre époque, finalement, avec une dénonciation du rôle d'Airbnb ou de Bookings dans cette forme de prostitution. Parce que finalement, on peut profiter d'Airbnb pour être absolument protégé.
Oui, alors merci pour cette évocation effectivement de ces sociétés liquides là de Bauman et ce rôle effectivement de ces prestataires de services comme Airbnb qui vont proposer au coup par coup une location d'hébergement, évidemment bien souvent aux dépens de ceux qui mettent leur logement à louer.
Et qui se retrouvent proxénètes de bonne foi, quoi. C'est incroyable.
Proxénètes, oui, sauf qu'ils n'ont pas conscience dans la plupart des cas, ils peuvent avoir conscience. Mais il me semble qu'il faut faire très attention néanmoins à ne pas se faire avoir par la partie émergée et la partie immergée de l'iceberg, de dire. Cette dimension liquide qu'on trouve, ce côté versatile, etc., c'est ce qu'on en voit du phénomène. Mais en réalité, derrière, on retombe sur des structures très, peut-être pas figées, mais très stables de rôle, malgré tout, avec le fait qu'il y a bien des gens qui sont proxénètes, il y a bien des gens qui sont prostituées, il y a bien des gens qui sont prestataires recrutement, et en réalité, les proxénètes sont toujours les mêmes. C'est dans les modalités d'organisation que ça bouge et que ça semble liquide.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de basse obstinée du rapport violent entre les adolescents et entre les hommes et les femmes et entre les activités criminelles et leurs victimes, disons-le.
Oui, alors cette image de basse obstinée me va bien, en effet. C'est-à-dire que derrière l'apparence, ce qu'on en voit, ce côté, une fois de plus, liquide, changeant, mouvant, très mobile, on a oui, en réalité oui. derrière cette base obstinée de la violence et des rapports.
Une vérité crue et qui ne se paye pas de mots. Avant qu'on continue ce panorama, Hélène David, un mot sur les prostitutions sans contact dans sa chambre.
Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'amener ce sujet. Donc, du coup, évidemment, des réseaux sociaux.
Oui.
Hein. Il y a quand même des plateformes, et ça, c'est une évolution où il faut pouvoir suivre, parce que ça vient très très vite. Pour parler,
suivre
par exemple,
tout en la dénonçant.
Voilà, c'est ça. Oui. Suivre tout en la dénonçant. Vous avez tout à fait raison, Antoine Garapon. Donc, je veux parler bien sûr d'Instagram. On avait Viva Street, voilà, mais aussi Snapchat, mais maintenant avec MyOnlyFans ou Mime, on a effectivement donc des plateformes où on peut tout à fait avoir la prestation, alors soi-disant au départ d'une star qui a son auditoire de fans qui peuvent, moyennant un abonnement, savoir des choses très très privilégiées de la vie de la star, mais quand même on sait qu'un énorme pourcentage des personnes qui produisent sur les 40 000 personnes, je crois, qui produisent des films ou des petites vidéos et des photos sur ces sites, c'est quand même à caractère pornographique. Et donc, ce ne sont plus des fans, c'est bien des clients
oui.
qui payent voilà. un abonnement au mois mmh. ou qui payent effectivement un quelque chose pour avoir un salon privé finalement
oui. hein, pour oui. avoir la faussement privé d'ailleurs
faussement privé
parce qu'après il peut exactement
voilà, il peut oui. très bien
tout est faux là-dedans.
Voilà. En tous les cas, ces personnes peuvent payer de fait assez cher. On ne le classe pas forcément aujourd'hui donc du côté de la prostitution au niveau juridique, mais pour des jeunes que je rencontre, de fait, c'est la porte ouverte à une première activité sexuelle. Parfois, des mineurs n'ont eu aucune relation amoureuse et sexuelle et elles sont déjà donc en train de vivre quelque chose qui les choque elles-mêmes. Face à leur écran avec des clients qui sont à l'autre bout et qui envoient aussi bien sûr des images et voilà donc
et ça,
suis plusieurs actuellement.
C'est ça, c'est un véritable phénomène.
Oui, et qui oui. ne sont pas du tout repérés évidemment
voilà,
par la police,
ni sûr.
Éventuellement par leur famille.
Et c'est ça, et ça peut se passer dans la chambre de l'adolescente chez soi, bien sûr.
C'est ça qui
se
passe,
c'est ça.
Et effectivement de n'importe quelle famille, milieu familial.
Alors même si quand même les études montrent que c'est, là aussi c'est une basse obstinée, Bénédicte Lavaux-Legendre, c'est-à-dire c'est quand même dans les familles problématiques, dissociées, dans les familles monoparentales qu'on va retrouver l'essentiel des victimes de la prostitution.
Alors, on est en train, avec Cécile Blessard, Gaëlle Encrenat et Gilonne Desquen, de réaliser une enquête pour l'ONP, l'Observatoire National de la Protection de l'Enfance, sur le profil, justement, des individus impliqués dans ces pratiques-là. On a évidemment, pour l'instant, alors on n'a pas encore les résultats consolidés, mais on a une grande majorité, évidemment, du côté des mineurs prostitués, de jeunes filles avec des profils bien cabossés,
bien
j'ai
sûr.
Envie de dire.
Oui, bien sûr.
Mais il ne faut pas non plus trop réduire, oublier. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a aussi des jeunes qui viennent de familles beaucoup moins défaillantes, beaucoup moins problématiques, et qui parfois sont peut-être même des familles très cadrantes. Je ne sais pas si on peut dire trop cadrantes. On n'a pas encore les résultats assez affinés, mais avec ce besoin d'émancipation dans certains cas normal à l'adolescence. Et quand le besoin d'émancipation ne parvient pas à s'exprimer, on passe dans une voie extrême qui est ces formes de prostitution.
On passe directement à la voie extrême, Hélène David.
Oui, j'ajouterais également qu'il y a quand même des situations de fragilisation, et là ça touche vraiment tous les milieux, et que ce soit urbains ou ruraux également, qui c'est quand même des fragilisations, notamment dans les années collège, par des rumeurs, par un harcèlement, et là je dis pas un harcèlement de violence, mais de violence sexuelle, et d'étiquette qui est posée sur des jeunes collégiennes, des jeunes collégiens, mais surtout collégiennes, où on va très très vite les taxer de putes.
Oui.
Alors que, je vous donne des exemples, au départ, on les a finalement poussés, le groupe les a poussés à un gage qui est autour de la sexualité, on les filme, par exemple, le gage, un jeu comme la bouteille ou comme Action Vérité, qui sont des choses qui sont anciennes, mais ça tourne aujourd'hui autour de la sexualité et on va filmer.
C'est-à-dire
bah, par exemple, une fellation à deux ou trois garçons du collège, on va les filmer et on va le balancer sur Internet. Et du coup, en plus, malheureusement, de cette violence sexuelle, où elle a été obligée par le groupe, eh bien, on va ajouter la rumeur et le harcèlement, et peut-être même, dans certaines situations que j'ai eu à accompagner, également un chantage, à savoir que si tu reviens pas, nous aussi on veut en profiter, disent certains sur Internet, si tu viens pas,
on balance aux parents.
Donc si vous voulez, avons donc des jeunes qui se retrouvent avec cette étiquette, qui se retrouvent avec un psychotraumatisme, parce que dès lors qu'on parle de ces activités sexuelles, prostitutionnelles, il y a psychotraumatisme. Et du coup, certaines peuvent se dire, puisque je suis une pute, autant avoir le bénéfice de cette réputation-là.
C'est ça. C'est le contraire de l'initiation qui doit introduire au monde adulte. Là, c'est une sorte de violence archaïque qui s'exprime à travers le réseau.
Oui. Tout à fait.
Un mot là-dessus, Bénédicte Lavaugendre.
Oui, je crois que il me semble que la rupture, elle est vraiment liée à l'image. C'est-à-dire que ce type de jeu, même autour de la sexualité, ait pu exister. Il faudrait regarder très précisément, mais des fois, quand on regarde dans des travaux très spécifiques, on s'aperçoit qu'il y avait des choses qui existaient il y a 40 ans, 50 ans, tout aussi ahurissantes.
Oui, mais cette hypersexualisation de la société a été moins forte. Il y avait l'ordre moral quand même, Bénédicte Lavaugendre. Vous avez aussi écrit là-dessus, hein, dans un ouvrage il y a quelques années. C'est-à-dire que l'accès à une image avec cette l'effet perceptif que porte l'image, l'effet hypnotique qu'apporte l'image, l'effet de réalité qu'apporte l'image, il n'existait pas dans les années 60, beaucoup moins, pratiquement pas.
C'est évident. Mais on revient encore sur l'image, c'est-à-dire que la banalisation de la sexualité passe par l'image en permanence. Et du coup, c'est vrai que le fait de pouvoir filmer une scène telle que vous l'évoquiez tout à l'heure a des conséquences incomparable avec les conséquences qu'il y aurait eu si la scène n'avait pas été filmée, qui aurait déjà été traumatique, etc. Je banalise pas du tout. Mais je veux dire, le fait de pouvoir filmer, ça décuple et là, il n'y a plus de limite dans les conséquences de cet événement.
Je suis frappé, moi, mais peut-être que c'est un syndrome du vieux schnock, mais par la crudité du langage des adolescents. Qui me semble tout à fait nouvelle par rapport à ce que j'ai vécu. Hélène David, je vois que vous opinez.
Oui. C'est vrai quand même que il faut quand même avoir en tête que beaucoup, une forme d'éducateur que les jeunes ont, souvent, ce sont les téléréalités. Et parfois, je m'oblige à regarder quelques-uns dont je ne citerai pas de nom, mais il y en a en permanence. C'est un jeu d'acteurs et d'acteurs hyper vulgaires. Et en permanence, c'est de trouver, il passe d'un rôle de bourreau à victime,
oui, toujours,
à
c'est de l'habilité
témoin.
Des rôles.
C'est ça. Et dans ce jeu, dans ce triangle-là, l'objectif des réalisateurs de ces émissions, c'est quand même justement de provoquer des bagarres, de la dispute. Et on retrouve parfois certains jeunes qui basculent complètement et les parents nous disent « mais ils me parlent, je ne reconnais pas ». Et si on observe le vocabulaire de ces téléréalités, c'est une transposition, ils jouent le jeu.
C'est ça. On voit bien comme quoi il y a bien une constitution, une construction de l'imaginaire sexualisé et violent des jeunes.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité.
Esprit de justice qui continue cette réflexion sur la prostitution des mineurs en compagnie d'Hélène David et de Bénédicte Lavaux-Legendre qui a choisi de nous faire entendre cette chanson de Clara Issé, Le monde s'est dédoublé. Bénédicte Lavaux-Legendre.
Oui, Antoine Garapon, cette chanson que je trouve assez bouleversante et qui, sans doute par des formations professionnelles, parce que je travaille beaucoup sur cette question de la prostitution des mineurs, me fait penser à vraiment la description d'un phénomène de dissociation qui se passe sous l'effet d'un trauma. Alors sans aller chercher, j'ai pas envie de me permettre d'aller chercher ce qui, chez Clara Issé, pourrait évoquer ce trauma. Mais en tout cas, cette dissociation, le monde s'est dédoublé, qui est bien ce que nous apprennent les neurosciences sur ce qui se passe lorsqu'il y a quelque chose que le cerveau ne parvient pas à assimiler, qu'il y a un psychotrauma. Et ce qui est bouleversant, je trouve, dans cette chanson, c'est derrière, regarde, il y a, derrière les nuages, il y a le soleil, nous dit Clara Issé. Donc l'idée que, heureusement, on peut ne pas s'arrêter à ce trauma, mais il y a des formes de...
Alors, oui, on va voir ensuite comment on peut faire pour lutter contre ça, mais c'est quand même frappant à vous lire l'une et l'autre, c'est cet effet de suspension d'écoute de ses émotions de la part de ces jeunes filles. On a l'impression qu'elle traverse le plan de prostitution, ces jours infernaux. Elle les traverse en débranchant quelque part leurs émotions. Bénédicte Lavaux-Legendre.
Alors en débranchant, c'est exactement ça, ce que décrivent les neuropsychologues, ce que décrit Muriel Salmona dans ses travaux, notamment sur le psychotrauma. Et c'est quelque chose qui doit vraiment être connu des professionnels et des parents, parce que ça provoque des réactions totalement incompréhensibles de la part des mineurs qui semblent raconter sans aucun affect, sans aucune émotion, avec de la provocation, les faits les plus crus et les plus insupportables pour quiconque qui, évidemment, n'est pas passé par ces événements-là. Mais Hélène David a beaucoup plus d'expérience que moi dans l'accompagnement.
Alors, Hélène David,
oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. Donc, dans mon travail, de fait, qui est surtout en direction des professionnels qui ont accompagné ces situations, mais aussi quand même des parents qui téléphonent directement. Et puis, pour certains jeunes que je peux rencontrer quand ils se laissent approcher, eh bien, de fait, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer quand même dans toute cette affaire. Donc je l'ai dit, j'ai des questions sur le collège. Est-ce qu'il y a eu des rumeurs, des harcèlements? À quel âge le jeune a eu accès à Internet, sur son téléphone, sur une petite tablette à la maison, un peu tout seul? Parce que effectivement, ça peut être aussi l'occasion, parfois à 8 ans, à 10 ans, d'avoir une irruption comme ça d'un film porno à un âge où on n'est absolument pas évidemment préparé. Et donc, évidemment, on va chercher, ça peut être un de ces psychotraumatismes. Et évidemment, il va y en avoir aussi, malheureusement, des fois dans la famille ou ailleurs. Et ça va être souvent le premier choc, la première vision de la sexualité qui va laisser quand même une empreinte.
Donc c'est effectivement quelque chose de très violent et qui doit, à laquelle il faut prêter la plus grande attention, ce premier contact qui est très difficile à prévenir, d'ailleurs, Hélène David.
Oui, tout à fait, mais il y a quand même des signaux qui permettent quand même de
comme
repérer.
Par exemple, pour les parents qui sont plus proches de l'enfant.
Eh bien, parfois, effectivement, bien sûr, ce que les parents vont voir tout de suite, c'est si les notes scolaires baissent. Oui. Ça, ils sont évidemment très attentifs, mais on voit aussi tout de même sur un impact sur le sommeil. Hein. Le psychotraumatisme va avoir des conséquences sur la qualité du sommeil, sur des cauchemars, sur la dépression, sur des angoisses, sur ces émotions qui changent. avec parfois des colères, mais aussi parfois effectivement une perte du sens et des émotions. Et voilà, tous ces petits signaux-là doivent être quand même pris au sérieux par les parents.
C'est ça, parce qu'ils pourraient être pré-prostitutionnels.
Parce que ça pourrait être malheureusement la porte d'entrée à une recherche sur Internet et où ils pourront trouver très très vite un tuto, même sur TikTok, pour se trouver un client, un quelque chose, et du coup basculer en moins de 24 heures dans une première petite expérience ou grosse expérience, très malheureuse, très... très problématique ou très heureuse si il trouve que ça a été vraiment génial.
Alors, il y a aussi le rapport à l'argent, Bénédicte Lavaux-Legendre, hein, quand même aussi. C'est-à-dire que c'est en 24 heures, une gamine peut avoir un peu d'argent.
Et oui, alors là, on a des propos très clairs, très évidents des mineurs concernés qui disent « moi, je cherchais de l'argent facile, j'avais besoin d'argent, et donc l'argent facile, l'argent rapide, effectivement, c'est rapide, évidemment, c'est pas facile, mais c'est rapide. » Et on retrouve là bien la logique néolibérale qui quand même traverse beaucoup notre société, avec... On va évaluer l'action non pas en vertu d'un principe moral, non pas en vertu de l'intérêt général, mais en vertu de l'intérêt de la personne. Et est-ce que j'ai intérêt ou est-ce que je n'ai pas intérêt? Et ben, dans cette stricte logique-là, on peut dire que si ça prend 2 heures et qu'on va gagner 200 euros dans le discours, parce
oui,
que la réalité
oui, parce
est
que
autre,
c'est jamais ça.
C'est jamais ça. Mais dans le discours, oui, j'ai intérêt. Et les mineurs vont dire, mais moi je ne fais de mal à personne, tout le monde est d'accord, tout le monde est consentant, j'ai négocié la passe, le client était d'accord, le patron, le protecteur entre guillemets était d'accord, je ne fais de mal à personne, c'est mon intérêt, c'est l'intérêt du client, c'est l'intérêt du patron. On est totalement dans une logique néolibérale, mais les dégâts sont absolument considérables, évidemment.
Parce qu'on va vite passer à un rapport violent. Mais je voudrais qu'on s'arrête un peu sur cette dimension addictive, proprement addictive, Hélène David. C'est-à-dire un rapport au sexe et un rapport à l'argent. Et finalement, une fois qu'on a trouvé le chemin sur Internet, tout se passe comme s'il y avait une sorte de dépendance au chemin de la part de ces adolescentes.
Alors tout d'abord, donc Antoine Garapon, de dire quand même que toutes ne gagnent pas d'argent. Et il y a certains professionnels ou parents qui me disent je pense que ma jeune est dans la prostitution. Et quand on fait un petit peu le point sur tous les petits signes qui sont dans ce tourbillon dans lequel la jeune est, il se trouve qu'il n'y a absolument pas d'argent. Et je veux parler justement de ces jeunes qui parfois vont trouver comme une famille dans un groupe, dans un quartier, et où elles vont être finalement prises comme un objet sexuel d'un groupe de jeunes. Et là, il n'y a pas d'argent. Et elles reviennent donc éventuellement des fois à la maison.
Mais est-ce qu'il y a une place? Est-ce qu'elles obtiennent ce bénéfice identitaire, on pourrait dire, d'appartenir à un clan? Ou est-ce qu'elles sont dégradées, y compris dans ce clan?
Alors là, après, joue le mécanisme. Il y avait ce qu'elles recherchaient au départ. Oui. Et puis, tout de suite, il y a le fait de l'emprise due aussi au psychotrauma. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une dissociation où le corps ne ressent plus rien et où on tue ces émotions parce qu'elles font trop souffrir, eh bien, effectivement, là, elles sont une proie, mais manipulable, mais terriblement facilement. En plus, dans ce phénomène d'emprise, on va ajouter la prise de produits. Oui. Parce que 90% de ces gamines qui sont dans ces situations très très difficiles, c'est pas de l'argent facile, on leur vend ça au début, mais c'est loin d'être facile.
Bien sûr.
Elles tiennent souvent avec du produit, voire on leur en donne pour créer encore plus de dépendance.
Alors, Bénédicte Lavaux-Legendre, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes juriste. Alors, vous avez commencé par une réflexion sur le droit et sur le passage des bonnes mœurs à cet individu roi et maître de tous ses droits. Il y a problème que je me pose et que je vous pose sur le consentement. C'est-à-dire, dans le fond, ce qu'il y a de très très néolibéral pour le coup, c'est une pression qui est moins une pression, une violence exercée pour normaliser un comportement que une pression sur le consentement. C'est, il y a un déplacement, c'est-à-dire le discours qu'elle vous sert en disant tout est d'accord, il n'y a pas de problème, je fais de mal à personne, c'est un win-win contract, on pourrait dire, tout le monde est gagnant, alors que c'est exactement le contraire.
Alors que c'est exactement le contraire. Bah, c'est tout le paradoxe finalement de, là encore, hein, de notre société actuelle. On voit bien ça dans le monde de l'entreprise. Vincent de Gaulé-Jacques et Fabienne Annick ont beaucoup analysé ça en identifiant les logiques paradoxantes qui donnent l'impression qu'on est dans une logique de consentement, de négociation. On voit ça très bien. Tout le monde connaît les prestataires du type Uber qui disent des auto-entrepreneurs, vous faites ce que vous voulez, vous choisissez vos horaires, vous choisissez les prestations, vous choisissez vos clients, etc. Et en réalité, derrière, tout est organisé, la plateforme sélectionne et le prétendu consentement qui est mis en avant n'est pas du tout réel. Alors ça, c'est un premier point qui permet un grand nombre de parallèles avec cette prostitution des mineurs. On a ce discours, cette logique paradoxante. Mais il y a un autre point quand même qu'il faut évidemment pas oublier, c'est qu'en plus ici, on parle de mineurs. Donc, on parle de mineurs pour lesquels le consentement à la sexualité, en tout cas avant 15 ans, va poser, lorsqu'elles sont notamment avec des gens de plus de 5 ans qu'elles, puisque la loi vient de changer en avril dernier, la question du consentement se pose là encore de façon très particulière. Donc, les difficultés se cumulent autour de question du consentement.
Oui, c'est ça. Mais ce qui frappe aussi, dans la, vous le notez d'ailleurs, Bénédicte Lavaux-Legendre, c'est que on est, ce que, comme le dit Armut Rosa, on est un siècle de l'accélération. Et tout se passe comme si cette entrée directe et violente et brutale dans la sexualité, par le, qui est malheureusement extraordinairement facile, tout se passe comme si à travers la prostitution, c'est toute l'adolescence qui était gommée. C'était une sorte de passage direct à sa phase maximale de sexualisation. Et David.
Alors, vous parlez donc de cette période de l'adolescence, Antoine Garapon, et merci. C'est vrai qu'il faut absolument comprendre aussi ce qu'est cette période de l'adolescence qui ne va pas finir souvent à 18 ans, mais plutôt autour de 23.
Oui, les neurosciences nous apprennent des choses là-dessus d'ailleurs, hein, comme quoi les neurosciences ont bien établi que la véritable la maturité organique était obtenue plutôt vers 23-25 ans.
Et du coup, le propre de l'adolescence, c'est absolument de trouver son identité. Cette recherche de qui suis-je. Alors c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, l'image, aujourd'hui, il semble y avoir une facilité comme ça à trouver qui on est en endossant un costume. Sauf que, effectivement, cet adolescent, lui, il veut surtout pas endosser le statut de fou, de victime, de pauvre.
De faible.
De faible. Encore plus aujourd'hui, enfin, c'est l'archétype du fort.
C'est ça.
Du coup, les réseaux, enfin, les plans, ceux qui sont, ils ont une facilité déconcertante à leur dire, mais c'est toi qui le veux, t'es indépendante avec nous. Et ça, ils apprécient beaucoup plus que de reconnaître, même devant un tribunal, et en plus, ils veulent pas être une balance, mais c'est très difficile pour un adolescent de dire, ben oui, j'ai été victime, je suis faible, j'ai besoin de soins. Oui. Ils peuvent pas le dire.
Je suis adolescent.
Ils le disent, voilà. On en a qui le disent, mais à 20-21 ans.
Oui, sur ce rapport à l'urgence, enfin au rapport au temps, c'est vrai que les professionnels disent que c'est une des difficultés considérables qu'ils rencontrent. C'est-à-dire qu'en fait, pour les foyers notamment, mais c'est pareil dans les familles, le mineur ou la mineure revient, mais elle revient pour 24-48 heures, puisqu'en fait elle va être immédiatement à nouveau happée par le groupe qui l'exploite, pour plusieurs raisons. Elle est happée, d'abord parce qu'ils ont besoin d'argent, donc évidemment ils ont besoin qu'elle revienne, mais elle peut être dépendante à des produits, donc elle a besoin de produits. Elle peut être dépendante à l'adrénaline, enfin elle a besoin de shoot d'énergie comme ça, donc elle va repartir très vite. Et toute la difficulté pour les acteurs éducatifs, c'est de mettre en place un accompagnement qui, par définition, prend du temps. On ne peut pas en 24 ou 48 heures et mettre en place un accompagnement qui nécessite un temps long et qui nécessite de prendre le temps.
Bénédicte Lavaux-Legendre, est-ce que c'est pas à nous de nous adapter, à nous les adultes, à nous les professionnels? Parce que c'est un problème, c'est l'éternel adolescent. C'est-à-dire qu'on va pas faire une psychanalyse à 3 séances par semaine pendant 5 ans avec un adolescent. Il faut trouver des modes d'intervention beaucoup plus rapides.
Et c'est évident que là, il y a un grand défi pour les institutions. Alors, pour les familles d'un côté, mais aussi pour les institutions, pour la justice, pour l'aide sociale à l'enfance, pour la médecine, quand si on a besoin d'un rendez-vous avec un addictologue, il n'est pas question d'attendre 15
c'est
jours.
La psychiatrie, vous dites qu'il ne s'intéresse plus qu'au délire ou aux formes paroxystiques de la maladie mentale, mais qui néglige un peu cette dimension-là.
Oui, c'est l'une des difficultés considérables. Et là, je pense qu'il y a un vrai défi dans les mesures qui sont mises en place de prendre en considération ce facteur temporel. Et l'autre facteur qui doit être pris en considération, c'est la nécessité de coopération entre les professionnels, parce que les problématiques sont considérables. Elles sont liées à la santé, elles sont liées à la criminalité, aux dangers réels, elles sont liées à l'éducation, à la scolarité, à l'addiction, etc.
Bien sûr,
et donc, il y a besoin de plusieurs professionnels pour travailler sur
cette question.
Voilà, donc effectivement, dans la permanence ado-sexo à agir contre la prostitution des enfants, c'est ce que j'ai mis en place sur le modèle, on parlait d'addiction, sur le modèle des consultations jeunes consommateurs.
C'est-à-dire très rapide, très intense.
Et avec une autre approche qui est très, au départ, motivationnelle. Il faut d'abord non pas partir de là où on aimerait qu'il arrive, mais plutôt là où il en est, qu'est-ce qui le motive aujourd'hui là où il en est. Aller vers lui, là où il se trouve.
Se situer dans sa trajectoire.
Oui, et pour l'amener par une pièce, une fenêtre, une porte ou autre, à avoir envie de faire un pas de plus. Éventuellement, avec de la réduction des risques qu'il prend déjà. Et puis de le motiver pour un quelque chose d'autre. Par rapport à l'adrénaline dont ces gamines qui sont traumatisées ont besoin pour ne pas tomber dans la déprime, hein, et les cauchemars.
L'effondrement.
Eh bien, souvent, avant qu'elles ne reviennent, on réfléchit avec les professionnels ou les parents. Qu'est-ce qu'on va lui proposer le jour où elle est là? Qu'est-ce qu'on va lui proposer? Non pas pour qu'elle reprenne 3 kilos et qu'elle se repose, mais pour donner de l'envie, du goût à faire autre chose. C'est ça qui... Donc des tas de choses qu'on va essayer de trouver, mais c'est pas simple.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu? On n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après...
Culture,
Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Comme une jeune mariée.
Esprit de justice qui continue sa réflexion sur la prostitution des mineurs en compagnie de Bénédicte Lavaux-Legendre et d'Hélène David, qui proposait les deux de cette chanson Je reviens te chercher, interprétée ici par Anne Silla, Hélène David.
Oui, bien sûr, ce titre-là me fait penser bien sûr à un livre qui est sorti dernièrement, écrit à deux mains par un père et justement sa fille qui est dans l'escorting, dans la prostitution. Et c'est justement un peu leur témoignage de comment une action forte aussi et une permanence des parents derrière ces jeunes, même si c'est très difficile, il faut pas baisser les bras. C'est quand même ça aussi qui permet à cette jeune de sans cesse savoir que son avenir n'est pas bouché, c'est pas foutu pour elle.
Bénédicte Lavaux-Legendre, c'est Hélène David parlait à l'instant d'escorting. Alors ça, c'est formidable. On peut aussi parler des michetonneuses, voilà, le michetomètre. C'est-à-dire qu'il y a une floraison de mots qui sont des mots d'euphémisation, qui contournent, qui veulent plus dire la crudité de cette réalité de la prostitution.
Et oui, on trouve là encore, comme ce qu'on trouve dans certaines entreprises, dans certaines logiques de management, on trouve une novlangue avec un vocabulaire tout à fait spécifique que quelqu'un qui n'est pas initié n'identifie pas immédiatement une travailleuse, enfin une prostituée, on ne dit pas une prostituée, on dit une bosseuse, pardon. On parle de plans, donc pour parler de séquences dans lesquelles il va y avoir du proxénétisme et de la prostitution.
Ça s'appelle un plan.
Ça s'appelle un plan. On va parler de téléphone de travail, on va parler de contrat. Pour dire, je vais pendant 4 jours, là, je fais un contrat. Ça veut dire, je vais dans un hôtel me prostituer.
Une mission à l'étranger.
On peut parler, voilà, on peut trouver plein de vocabulaire qui permettent de ne pas dire, on peut dire, je vais accompagner.
C'est ça. C'est intéressant, c'est ce qu'on retrouve dans le crime contre l'humanité. Cette euphémisation pour commettre l'irréparable et des choses terribles.
Oui.
Là, c'est pas aussi grave concernant la prostitution, mais on retrouve ce même contournement de la réalité.
Exactement. Merci Antoine Garapon d'évoquer ça, parce que ça renvoie beaucoup plus loin en fait qu'à la seule question du langage. Ça renvoie aussi. Alors, il y a les protecteurs aussi
qui sont les collaborateurs pour le
proxénète, le patron. Mais ça renvoie à quelque chose qui est encore plus profond et qui est très grave pour les jeunes concernés, parce que, et peut-être aussi pour les professionnels, parce que ça empêche de penser, c'est qu'il y a toute une façon de justifier l'activité, de justifier le mode de fonctionnement par l'intérêt de celle qui se prostitue, alors qu'en réalité, on est dans un détournement complet du langage, mais de la réalité. Prenons un seul exemple, lorsque la prostituée reçoit l'argent du client avant la passe généralement, très fréquemment, les patrons, les proxénètes demandent de récupérer l'argent immédiatement. Et quand on leur dit « Mais pourquoi vous récupérez l'argent immédiatement ?» La justification, c'est pour éviter que la fille qui se prostitue ne se fasse voler l'argent par le client à la fin de la prestation. La réalité, évidemment, elle est tout autre. Oui. C'est pas ça le but. Oui. Le but, c'est de récupérer l'argent pour ne pas le donner à la prostituée à l'issue. Et il y a des dizaines d'exemples comme ça. Et les jeunes mineurs ou jeunes majeurs, peu importe, sont prises dans cette logique-là et ne peuvent plus penser, ne peuvent plus identifier qu'en fait, elles sont prises dans une logique qui les dépasse.
Mais oui, comment voir la réalité quand on ne la nomme pas ?
Quand on ne la nomme pas, quand elle est dénaturée.
C'est ça.
Quand le mode de fonctionnement est dénaturé complètement.
En même temps, dans l'accompagnement de ces jeunes, moi j'utilise les mots qu'elles prononcent elles-mêmes. Et ça parce que donc dans cette crise d'identité qu'elles traversent, c'est très très important. Et là, je reprendrai un terme de Serge Tisseron, donc un pédopsychiatre bien connu. Et il dit « Attention au prêt-à-porter identitaire qu'on propose aux jeunes ». Et dans cette quête identitaire, si on propose comme costume « tu es toxicomane, tu es prostituée, tu es quelque chose », si soit elle va rejeter ce costume, soit elle va l'endosser. Et si elle l'endosse, on est très très mal. Parce que du coup, c'est une identité qu'elle se crée. Elle rentre dans le personnage. Et voyez, aux professionnels comme aux parents, peut-être qui nous écoutent, pour toutes les conduites à risque, je dis bien attention, il faut montrer aux jeunes qu'on croit en lui, en qui il est.
Dans son être.
Dans son être.
Au-delà de ce qu'il fait.
Au-delà de ce qu'il fait, l'être qu'il sera. On a confiance dans qui il sera. En revanche, c'est la conduite, c'est l'habitude qu'on va interroger. Et ça, c'est important parce que le réseau va faire l'inverse. Les réseaux sociaux font aussi autrement. Ce qui les intéresse, ce n'est pas qui est le jeune, c'est ce qu'il montre. Ce qu'il donne à voir.
C'est ça, bien sûr. C'est la superficie, bien sûr.
Voilà. Oui. Et la publicité, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on a. On existe par l'objet qu'on achète.
Mais vous remarquez, Bénédicte Lavaux-Legendre, un effet de sidération, j'ose pas dire de fascination, chez un certain nombre d'intervenants qui ne comprennent pas, qui sont comme tétanisés par rapport à d'autres faits criminels, délinquants, des mineurs qu'on connaît bien, du vol, cambriolage, même des stupéfiants.
Oui, alors on a pu réaliser des séances de formation au cours desquelles j'ai rencontré pas mal de professionnels qui effectivement font part de cette sidération qui les frappe, mais qu'on peut, je pense, très bien comprendre, hein, que personne n'est exempt de cette sidération. Quand on est face à une mineure de 14-15 ans qui décrit une fois de plus, il faut pas oublier l'effet du psychotrauma, mais sans même évoquer ça, qui décrit dans sa plus grande crudité les pratiques auxquelles elle se livre, quand certains de ces professionnels sont eux-mêmes parents ou ont dans leur entourage des mineurs qui peuvent éventuellement être confrontée à ce type de pratique. Il y a quelque chose quand même d'extrêmement violent dans ces situations-là. Et du coup, il peut y avoir... Alors, je m'interroge, est-ce qu'on n'est pas presque face à un effet miroir ? Autant la mineure va être sidérée face à ce qu'elle vit, face à ce qu'elle voit, face à ce qu'elle, aux personnes qu'elle rencontre, autant en retour, le professionnel peut éventuellement être soumis à cette sidération.
Oui.
Et avoir aussi la difficulté à nommer et à identifier ce que lui...
Mais c'est quelque chose de très archaïque, ça. C'est, on a peur que le nom appelle la chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le désignatif, on est dans une sorte d'invocatif, quoi, d'usage tout à fait archaïque du langage. Il dit, si je dis prostitution, je vais appeler cette réalité, et donc j'en serai en quelque sorte responsable.
Alors, il y a probablement ça qui joue. J'ai pas pu aller assez loin pour vraiment pouvoir être péremptoire. Il y a probablement ça qui joue. Il y a d'autres choses, je pense, qui jouent dans les logiques institutionnelles et dans la difficulté d'un certain nombre de professionnels à repérer les choses. Je pense notamment, parce que les choses sont en train de bouger, mais que ce qu'on pense à des éducateurs, des magistrats, des membres de la protection judiciaire de la jeunesse, qui ont du mal vraiment à regarder cette réalité, des services de police évidemment, qui ont du mal à regarder cette réalité en face. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans des logiques, ces professionnels-là sont dans des logiques de chiffres, dans des logiques eux-mêmes d'évaluation, et que parfois, je pense que ces questions sont tellement compliquées, tellement difficiles à travailler, tellement chronophages, qu'on préfère peut-être circuler et ne pas voir ce qu'il y a à voir.
Oui, alors il y a ça, mais je crois aussi la difficulté de se battre contre un phénomène auquel participe consciemment, délibérément, en apparence du moins, le jeune. C'est-à-dire qu'il n'a pas de prise, Hélène David.
Alors, c'est vrai que je fais quand même beaucoup de formations de professionnels, notamment de l'aide sociale à l'enfance, les éducateurs de prévention spécialisés, un peu de la PJJ. C'est vrai que il y a aussi pour eux, c'est aussi choquant émotionnellement tout ce qu'ils reçoivent.
Bien sûr.
Et puis,
qu'ils sont pas capables de protéger dans le cas d'une prostitution au sein d'un foyer, c'est
quand même
terrible.
Ils ont choisi un métier pour protéger, et ils se rendent compte que même certains sont recrutés à l'intérieur même. Donc c'est vraiment choquant et ça bouscule vraiment. Donc il y a quand même des départements où il y a vraiment un énorme travail. Je travaille notamment sur des départements d'Île-de-France, mais pas que. Donc un gros travail pour qu'il y ait un langage courant et pour travailler les représentations. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels aussi qui disent « Ben non, il n'y a pas de prostitution, comme on pouvait dire, il n'y a pas de toxicomanie.
Oui, »
Parce que on voyait l'héroïnomane avec une seringue, et pour la prostitution, on voit la prostituée au bois de Boulogne avec un client qui vient en voiture. On n'est pas là-dedans. Et du coup, il faut faire ce travail sur la présentation.
Alors, vous parlez de clients avec la voiture. Moi, je pense à Georges Brassens et à Edith Piaf. C'est-à-dire, je pense à une époque dans laquelle une forme de prostitution était glorifiée comme une liberté, comme une sorte d'espièglerie à l'égard de l'ordre moral. Et donc, il y a toujours cette représentation... on est peut-être en transition là aussi entre une sorte de sympathie à l'égard de ces comportements sexuels tout à fait romantiques ou du moins transformés de manière romantisme édicte.
Alors ce qu'il y a quand même de particulier ici, c'est le profil des mineurs qui sont quand même souvent beaucoup dans la provocation, même toutes victimes qu'elles sont, toutes abîmées qu'elles sont, qui peuvent être vraiment dans la provocation, dans la revendication, dans le fait de dire, on l'a évoqué tout à l'heure, je gagne trois fois plus que toi, mais c'est une question de génération. Tu peux pas comprendre, de toute façon, tu es beaucoup plus vieux, tu es trop vieux, aujourd'hui ça fonctionne
et
comme ça.
Et puis tu es en dehors de mon monde, comme tu n'es pas sur les réseaux sociaux, que tu passes pas ton temps à discuter sur ces... Bon, on peut pas se comprendre, on n'est pas dans le même monde.
Exactement, on n'est pas dans le même monde. Et moi j'ai le souvenir d'un policier qui a pourtant pas mal de bouteilles et d'expérience, et qui me raconte mais vraiment les larmes aux yeux, qui s'était fait blackbouler par une victime qui était partie en claquant la porte et en disant toutes les pires insultes qu'on peut imaginer, alors même que juridiquement et humainement, enfin, il n'y avait aucune discussion, cette gamine était frappée, se prostituée dans des conditions extrêmes, et elle retournait son agressivité contre le policier en disant les insultes qu'on peut imaginer.
C'est lui à cause du désordre.
Et lui était dans une impuissance totale de se dire comment on fait.
Mais je crois qu'il faut prendre tout à fait cela au sérieux, quoi. Cette mise en échec des institutions par un comportement qui a retourné et qui ne, on retrouve toujours le langage, quoi, qui retourne le langage contre la loi.
Exactement. Et c'est là que je pense qu'il y a besoin absolument d'avoir des adultes formés et solides, hein, mais formés aussi, parce que tant qu'on ne comprend pas, qu'on n'identifie pas ces logiques-là, et ben effectivement, on a le risque d'être dans la sidération et dans la violence, dans la réaction immédiate qui ne peut pas marcher.
C'est ça, ou le déni. Ou le déni, Hélène David.
Oui, j'ajouterais également qu'il y a des acteurs dont nous ne parlons pas et qui pourtant ont vraiment une note à jouer dans cette symphonie qui fout autour de chaque jeune. Effectivement la santé. Et la santé plutôt du côté psy. Et c'est vrai que là, on parle de psychotraumatisme, et c'est quand même terrible. On sait bien qu'en France, il manque sans doute de moyens. On sait qu'avec le confinement, il y a eu une explosion chez les jeunes de souffrance. Donc, ils sont aussi débordés par des étudiants. Mais c'est vrai que ces petites jeunes, les éducateurs et tous les acteurs qui les ont à accompagner sont vraiment dans une grande difficulté.
Est-ce qu'on serait pas dans le cadre, quoi, dans la nécessité à la recherche d'un plan national, c'est-à-dire pour de sensibilisation, de formation structurée audacieusement par l'État, parce qu'on se rend bien compte que ça concerne depuis les parents, les cours de récréation, les enseignants, les infirmières scolaires qui jouent un rôle essentiel là-dedans, les travailleurs sociaux, la psychiatrie, la pays. On voit bien que c'est un phénomène absolument transversal, Bénédicte Lavaux-Legendre.
Oui, tout à fait. Et là, il y a absolument besoin effectivement d'un plan non seulement national, mais interministériel, une politique publique intersectorielle qui dépasse évidemment l'éducation nationale, la santé, la justice, qui associe étroitement tous ces acteurs.
Et pour ça, il faudrait constituer une sorte de corps de doctrine. Alors, cette émission approche de sa fin. Je voudrais vous demander à l'une et à l'autre une idée avec laquelle les auditeurs pourront refermer leur poste. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Hélène David ?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu un rapport en juillet qui est sorti, qui a été remis à Monsieur Taquet. On a des grosses attentes dans le secteur, hein, pour des mises en place et qui soient effectivement, qui touchent tous ces champs. Et je redis régulièrement que l'exemple des addictions, du champ des addictions, avec une mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie et les addictions, est un bon modèle réunissant tous les acteurs essentiels.
Bénédicte Lavaux-Legendre, un mot.
Oui, il y a des instances qui existent, il y a besoin d'aller beaucoup plus loin, mais il y a des instances qui existent qu'il faudrait au moins solliciter. Je pense notamment aux commissions de lutte contre la prostitution qui mettent en œuvre les plans de sortie de la prostitution, les programmes de sortie de la prostitution. Il faudrait que ces instances-là, dans un futur très proche, je ne parle pas encore du plan, etc., se saisissent de la question et réunissent autour de la table tous les acteurs concernés autour de la situation de tel ou tel jeune lorsqu'il y a besoin.
Eh bien, merci beaucoup à l'une et à l'autre. On s'est réunis aussi, nous, autour d'une table dans un studio pour essayer de faire avancer cette épineuse question.
Merci. Merci beaucoup, Antoine Garapon.
Esprit de justice avec Hélène David, Bénédicte Lavaux-Legendre, Valérie Lavalard, Sandrine Chaperon, Anna Feulpin, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon.